l'info matin, Nicolas Legrand.
Le FLNKS présente sa délégation pour discuter à Paris. Le député Emmanuel Tchibaou la conduira aux côtés de Roque Mitan, Michael Forest, Alozio Sacco et Omera Neslin. Les agressions sur les forces de l'ordre multipliées par 14 en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. Le ministère de l'Intérieur dévoile son baromètre de l'insécurité en 2024 au niveau national. Pas d'accord sur le budget de la France. La commission mixte paritaire s'est réunie pendant 10 heures et ça coince encore sur les coupes budgétaires. Nouvelle réunion prévue la nuit prochaine. À l'étranger, un crash d'avion aux États-Unis. Un hélicoptère de l'armée a percuté un avion de ligne. Dans des conditions qui restent floues, le bilan est de 67 morts. Le sport et l'équipe de France de handball qui joue pour une place en finale du championnat du monde ce matin. Les Bleus se déplacent à Zagreb pour affronter la Croatie. Coup d'envoi du match à 7 heures. La météo sur le territoire, le soleil se montre très présent sur la Grande Terre, mais de rares averses restent possibles au Loyauté et sur l'extrême sud. L'alizé d'est-sud-est se renforce jusqu'à 40 nœuds. Il y a d'ailleurs une vigilance jaune qui a été émise sur le sud-ouest de Païta à Bouraï, le nord-est de Puebo à Poum et sur le sud-est de Thio à Canala. Les températures maximales sont stables, souvent comprises entre 30 et 33 degrés et jusqu'à 34 degrés par endroit sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique sur le territoire.
Oui, pour avancer, il faut d'abord clarifier le postulat de départ de la discussion. C'est le message du bureau politique du FLNKS à quelques jours du départ pour Paris de sa délégation qui doit participer aux discussions bilatérales avec l'État, Elisabeth Noir.
Les discussions bilatérales qui devraient débuter le 4 février à Paris avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, mais à l'invitation du Premier ministre François Bayrou, qui a écrit aux différents groupes politiques calédoniens. La délégation du FLNKS partira donc dans les prochains jours et elle sera conduite par le député Emmanuel Tchibaou, président de l'Union calédonienne, qui prend le titre de chef de délégation. Il sera accompagné de 4 personnes représentant les composantes du Front, Roque Mitan et Michael Forest de l'UC, Alozio Sacco du RDO et Omeyra Neslin. Emmanuel Tchibaou qui a justifié la composition de cette délégation.
Ce qui a prévalu, c'était une représentativité des composantes du Front et l'expérience, parce qu'on a au sein de cette délégation les signataires de l'accord de Nouméa, Roque Mitan, on a Alozio Sacco, qui est au RDO, qui est au FLNKS, qui a suivi les discussions institutionnelles au comité des signataires pour le FLN, et puis Michael Forest pour le volet relations internationales, et puis des discussions institutionnelles, il a participé aux échanges avec l'ensemble des gouvernements successifs, et puis les deux novices, si on veut, c'est Omera Neslin, Dynamite Auto, et puis moi pour le volet chef de mission.
La délégation part donc à Paris pour participer à des discussions bilatérales, une étape essentielle selon le bureau politique du FLNKS pour clarifier la méthode, le calendrier et le contenu envisagé par l'État.
On entend surtout de clarifier finalement le postulat de départ de la négociation dans la mesure où, en dehors du discours de politique générale et de l'invitation qui a été envoyée à l'adresse du FLNKS, il y avait nécessité d'indiquer quelle méthode, quel phasage par rapport au calendrier et puis après les contenus qui sont rattachés à la discussion sur la sortie de l'accord de Nouméa pour nous, qui s'inscrit dans une trajectoire de décolonisation, pleine souveraineté. Mais pour ce qui est de l'État, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça qui est le mandat de la délégation, qui est composé au terme du 44e congrès du FLNKS avec l'ensemble des composantes là, des nationalistes.
Et après ces bilatérales à Paris, la délégation reviendra sur le territoire pour rendre compte à sa base avant d'envisager des négociations trilatérales qui se dérouleraient à Nouméa.
Les discussions pour nous trilatérales, elles sont envisagées dans la suite de ce qui va être les réponses formulées par l'État. Nous, on n'a pas conditionné de reprise à la discussion. On dit que depuis le congrès de Lanzwata, après la dernière consultation référendaire, on n'a pas participé, on s'engage dans les bilatérales. Il y en a qui ont choisi d'autres options. Aujourd'hui, le 13 mai, il nous a tous retrouvés là où on était dans les discussions, à stopper les discussions. Le point de départ de la discussion, si on doit s'engager dans les poursuites sur les trilatérales, c'est d'abord de clarifier d'où est-ce qu'on part. Et pour nous, le postulat de départ, c'est la puissance administrante, la France, qui détermine le cadre dans lequel la discussion elle est engagée pour discuter de la sortie de l'accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation pour nous. Donc, c'est dans cette perspective-là que la suite, elle sera envisagée par le Front. Mais on a discuté de ça au 44e congrès. Pour permettre justement d'avancer, il faut d'abord clarifier le postulat de départ de la discussion.
Et c'est pour ces trilatérales que le FLNKS souhaite la présence à Nouméa de son président désigné, Christian Théin, qui est actuellement incarcéré en métropole. Et puis au menu également de ce déplacement à Paris, la relance économique. Des rencontres sont prévues notamment avec le ministre de l'économie.
Et puis lors de cette conférence de presse, Elisabeth, il a aussi été question de l'Azerbaïdjan.
Oui, nous avons interrogé le bureau politique du FLNKS sur ses liens avec l'Azerbaïdjan, alors que vous le savez, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Outre-mer ont dénoncé ces derniers jours l'ingérence de ce pays et ses menaces de déstabilisation, notamment après l'intervention d'un responsable du groupe d'initiative de Bakou en ouverture du congrès constitutif du Front international de décolonisation. Ça se passait au siège de l'Union calédonienne. La réponse d'Emmanuel Tchibaou.
Pour parler franchement, on n'a pas parlé de ça au congrès du FLNKS. Les appuis et soutiens du Front de Libération, ils lui appartiennent. Et donc, le fait de conférer une légitimité à un État plutôt qu'à un autre, nous, on est dans une phase de libération. On demande le soutien des États qui nous soutiennent, d'autres non. L'Azerbaïdjan en fait partie. Après, il n'y a pas de conditionnement au soutien politique pour le Front de Libération.
Et nous avons demandé au chef de la délégation FLNKS s'il n'y avait pas un peu de provocation a amené à Paris pour participer au bilatéral des élus comme Michael Forest ou Omera Neslin, alors que Manuel Valls a jugé inacceptable que certains responsables indépendantistes aient des liens avec l'Azerbaïdjan.
Je pense qu'il n'y a pas de provocation pour nous, hein, mais si on doit demander l'autorisation de la France pour choisir nos alliés, ce n'est pas notre option. Nous, on s'inscrit dans un mouvement de libération. Si on a des soutiens qui nous arrivent, on les prend. Après, on a bien conscience qu'il y a des enjeux de diplomatie internationale qui répondent des stratégies de la France avec l'Azerbaïdjan. Ça concerne la France avec l'Azerbaïdjan.
Voilà pour ce positionnement sur l'Azerbaïdjan. Et puis dans un autre domaine, il faut préciser qu'à côté de cette délégation FLNKS qui affirme représenter les différentes composantes du front, il y aura aussi à Paris une délégation unie qui participera aux discussions bilatérales avec l'État. Elle est composée de Jean-Pierre Diaoué et d'Adolphe Digoué pour le PALIKA et de Victor Totougoro pour l'UPM.
Merci Elisabeth Noir. Dans le reste de l'actualité ce matin, les partenaires sociaux seront reçus aujourd'hui par le membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi, Christopher Gigès, mais aussi par Thierry Santa, qui est lui en charge du budget et des finances. Il s'agira de faire un état des lieux de la situation des chômages partiels et de droit commun et de discuter de l'évolution de ces dispositifs. Un sujet qui était hier au cœur des jeudis de l'économie. Radio Rythme Bleu, Lionel Sabot.
Il existe aujourd'hui 5 régimes de chômage différents. Les 2 régimes historiques de chômage partiel et de chômage total de droit commun. Le régime chômage partiel nickel, mis en place au moment des projets de fermeture de l'usine du Nord. Et 2 régimes créés après les émeutes de mai 2024. Le chômage partiel exaction et le chômage total. Exaction. Le régime de chômage partiel nickel est en voie d'extinction, mais les 4 autres régimes restent actifs. Le directeur du travail, Philippe Martin, a donné 2 séries de chiffres pour comprendre son évolution.
Une série de chiffres pour octobre 2024 et puis pour décembre, sachant que pour décembre, il nous manque des données encore pour le chômage partiel exaction, puisque les entreprises ont 2 mois pour présenter leurs états de remboursement à la CAFAD. Donc c'est un chiffre évolutif. En octobre 2024, nous avions 1340 personnes en total exaction. Nous avions 5069 personnes en chômage total de droit commun. Et puis, évidemment, le gros de l'effectif, 9480 personnes en chômage partiel exaction. Donc ça, c'était pour le mois d'octobre 2024, qui est le dernier mois dont on est sûr à 100%. Pour décembre, nous avons 1413 chômeurs en chômage total exaction. 4446 chômeurs de droit commun et 3375 chômeurs partiel exaction, chiffre qui va être certainement revu à la hausse puisque nous attendons encore les états de remboursement des entreprises auprès de la CAFAD. Entre septembre et octobre, 8% de moins de personnes bénéficiant d'un dispositif de chômage qu'au mois de septembre. Donc on voit quand même une évolution à la baisse, mais une évolution qui reste quand même relativement faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet significatif de baisse aujourd'hui sur les bénéficiaires de ces différents dispositifs de chômage.
Une faible évolution à la baisse du nombre de personnes bénéficiant de l'un des régimes chômage à laquelle il faut faire attention car les chiffres pourraient de nouveau grossir avec les personnes qui risquent le licenciement économique, sachant qu'une procédure de ce type, une fois lancée, prend 5 mois avant d'aboutir.
L'actualité économique sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, ce vendredi, notre invité du matin sera Benoît Meunier, le président de la FCBTP, la Fédération calédonienne du bâtiment et des travaux publics, l'occasion de faire avec lui un point sur la situation du secteur. Et puis le magazine Transparence fait sa rentrée après plusieurs semaines de pause. C'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir pour ce premier Transparence de l'année. Et il sera essentiellement interrogé sur la situation de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, 8 mois après les violences insurrectionnelles. Le haut-commissaire Louis Lefranc, invité de Transparence, est donc à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier maintenant, 71% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la chambre de criminel de la Cour de cassation a eu raison de dépayser à Paris l'information judiciaire sur les émeutes du mois de mai. Ils sont 29% à penser qu'elle n'a pas eu raison. Voici maintenant notre question du jour. François Bayrou a-t-il eu raison, selon vous, d'employer la formule « submersion migratoire » ? Si vous pensez qu'il a eu raison d'employer cette formule, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 6h passé de 41 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Vous rêvez d'une salle de bain moderne ? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook. Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'actualité en métropole est le service statistique du ministère de l'Intérieur qui a dévoilé tôt ce matin pour nous le bilan de la délinquance sur l'année 2024. Et au regard de ces chiffres et à l'heure où la lutte contre le narcotrafic est érigée en priorité absolue par les autorités, on constate d'ailleurs une forte hausse du nombre de délits liés aux stupéfiants. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Effectivement, c'est la hausse la plus significative de tous les délits. La consommation de drogue augmente de 10% par rapport à 2023. Le trafic, lui, c'est plus 6% avec un pic cet été pendant les Jeux Olympiques, plus 41% de l'usage des stupéfiants en juillet par rapport au même mois de l'année précédente. Le ministère de l'Intérieur l'explique notamment par la forte mobilisation des forces de l'ordre pendant les JO avec des contrôles renforcés et des zones plus touchées que d'autres en avant-poste Paris, le Val-d'Oise, les Bouches-du-Rhône, mais aussi l'Isère où le trafic de drogue gangrène Grenoble. Ces mêmes départements sont ceux qui ont été ciblés par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avec les opérations PlaceNet où de nombreux contrôles de police ont eu lieu l'an passé. Autre augmentation, les agressions sur les forces de l'ordre, plus 4% l'année dernière avec une explosion en Nouvelle-Calédonie où ces violences ont été multipliées par 14 au moment des émeutes. Ce qui baisse en revanche et c'est valable partout en France, et bien c'est la délinquance dans les transports en commun qui retrouve les niveaux de 2016.
À noter également cette hausse significative des violences contre les forces de l'ordre. Dans les rangs de la gendarmerie, c'est un militaire sur 10 qui a été blessé dans l'exercice de ses fonctions l'an dernier. 10 000 gendarmes blessés, c'est 4% de plus qu'en 2023. Et la moitié de ces violences s'est déroulée dans les Outre-mer. L'actualité politique et la commission mixte paritaire qui était réunie depuis hier soir pour nous. Aucun accord n'a finalement été trouvé entre députés et sénateurs après 10 heures de débats. Débats qui reprendront demain pour tenter d'aboutir à un budget 2025 pour la France. Mais alors, qu'est-ce qui coince Alexis de la Fontaine ?
Eh bien, il reste encore trois points de crispation. Tout d'abord, l'aide médicale d'État, le dispositif qui permet de soigner gratuitement les immigrés en France. Ce sujet risque de déchirer l'accord de non-censure avec les socialistes, selon le député macroniste Jean-René Cazeneuve.
C'est un des points difficiles. Effectivement, le Parti socialiste aujourd'hui ne souhaite pas qu'il baisse. Les Républicains souhaitent qu'il baisse de manière très significative. J'espère qu'on trouvera un compromis.
Pour les socialistes, le compte n'y est toujours pas, confie un négociateur. Olivier Faure et ses troupes exigent de nouvelles concessions budgétaires. Car François Bayrou a refusé l'augmentation du SMIC ou leur idée d'impôt sur la fortune non productive, c'est-à-dire les crypto-monnaies ou les biens dits précieux comme les voitures et les yachts. Enfin, le Rassemblement national fait aussi entendre sa voix. Le député Jean-Philippe Tanguy menace de voter la motion de censure si le gouvernement ne renonce pas à la hausse des prix de l'électricité.
Si les autres partis politiques estiment que c'est tout à fait normal que le prix du nucléaire de base passe de 40 à 70 euros, eh bien qu'ils aillent justifier auprès des industriels et des Français comment ils peuvent justifier une telle évolution du prix de base du nucléaire français. On parle de 70% de l'électricité.
À cette heure, la survie de François Bayrou reste encore très incertaine.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité en métropole, un accident de car scolaire fait une victime dans le centre Val-de-Loire. Une lycéenne de 14 ans est décédée, 34 autres élèves ont été blessés. Le chauffeur qui roulait sur une route près de Châteaudun a été contrôlé positif aux stupéfiants. Il a été placé en garde à vue et il a livré sa version des faits aux enquêteurs. Guillaume Dominguez pour Europe 1.
Et oui, dans un communiqué diffusé à la mi-journée par Frédéric Chevalier, le procureur de la République de Chartres, il indique que le conducteur de ce bus, un homme de 26 ans, inconnu de la justice, a été placé en garde à vue. Les premiers tests salivaires effectués par les enquêteurs après l'accident se sont révélés positifs aux stupéfiants. En revanche, le procureur de la République confirme à Europe 1 qu'ils étaient négatifs à l'alcool. Un prélèvement sanguin a été réalisé dans la foulée. On devrait en connaître les résultats demain à la mi-journée. Et selon ses premières déclarations, ce chauffeur raconte avoir croisé un véhicule circulant trop proche de la ligne blanche. Il a dit avoir voulu l'éviter et s'est retrouvé dans le fossé. L'accident a fait une victime, une adolescente de 14 ans. Deux autres enfants sont en urgence relative. 14 élèves étaient présents à bord du bus. Cet après-midi, le maire de la commune de Châteaudun, Fabien Vigier, les a rencontrés. Il a tenu à saluer leur courage au micro d'Europe 1.
Je salue la solidarité entre ces jeunes. Ils sont entraînés, ils sont passés par les trappes, ils ont une solidarité pour sortir, ils ont été héros dans un contexte difficile. Et puis aujourd'hui, respecter la douleur de la famille à laquelle on pense énormément. Et quand je voyais des élèves de sa classe de seconde tout à l'heure en larmes, c'est très touchant. Moi, en tant que maire, je suis très en colère. On rétablira les faits ensuite, les causes, les conséquences, celles et ceux qui ont fauté.
Voilà, une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Elle a été confiée à l'escadron de sécurité routière de la gendarmerie d'Eure-et-Loir.
Guillaume Dominguez du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis maintenant, c'est un hélicoptère de l'armée qui a percuté un avion de ligne. Le crash s'est produit à Washington. Les autorités américaines indiquent n'avoir retrouvé aucun des 64 passagers de l'avion, ni les trois militaires. Il n'y aurait donc aucun survivant. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Un crash dans le ciel de Washington qui s'est déroulé sous les yeux des contrôleurs aériens, impuissants malgré leurs efforts pour éviter le drame.
PAT-25, vous voyez l'avion? PAT-25, vous passez bien derrière l'avion? Équipage PAT-25, répondez. Oh mon Dieu, vous avez vu ça?
Des avertissements qui n'ont donc pas suffi à alerter l'hélicoptère militaire qui s'est violemment encastré dans l'avion et ses 64 passagers. Lors d'une allocution, Donald Trump a exigé tout à l'heure des réponses quant aux circonstances de cette tragédie, car pour le président américain, la trajectoire de l'hélicoptère pose question.
J'ai moi-même un hélicoptère, vous pouvez l'arrêter très rapidement. Le pilote aurait pu stopper l'hélicoptère, le faire aller en haut, en bas, sur le côté. Il y avait plein de manœuvres à faire, mais pour je ne sais quelle raison, il a continué tout droit. Il a tenté un virage au dernier moment, mais c'était trop tard.
Donald Trump, qui a également confirmé qu'il n'y avait malheureusement aucun survivant, le bilan serait donc ce soir de 67 morts.
Et au cours de cette conférence de presse, Donald Trump a accusé ses prédécesseurs démocrates d'avoir baissé les exigences en matière de sécurité aérienne. Selon lui, la mise en place d'un programme de diversité chez les contrôleurs aériens aurait fait baisser le niveau de compétence des employés. Écoutez.
Là, il est question donc de handicap qui pouvait impliquer soit des problèmes d'épilepsie, des troubles psychiatriques, d'énanisme, d'ouïe également, ou des troubles de la vision, et le tout pour des postes de contrôleurs aériens qui doivent pouvoir visualiser un tout petit point sur une immense carte. C'était dans le cadre de ce programme de diversité de l'AFA, alors que normalement cette agence est en charge de veiller à la sécurité du transport des passagers. Pour moi, c'est exactement le contraire qui était à l'œuvre avec ce programme de diversité qui avait été mis en œuvre.
Et pour le moment, aucune communication permet de faire le lien entre cette déclaration de Donald Trump et cet accident impliquant donc un hélicoptère de l'armée et un avion de ligne à Washington. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une dernière pause dans ce journal, dans une avant-dernière pause puisqu'il y aura l'actualité locale juste après.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Bonne année à tous de la part de Magie.
Que cette nouvelle année soit remplie de saveurs délicieuses et d'expériences culinaires inoubliables.
Chez Magie, nous vous accompagnons tout au long de l'année avec nos produits savoureux et inspirants. Magie, cuisiner, ça change la vie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Info Matin avec l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et le Sénat coutumier qui va organiser le premier forum du Livre blanc des quartiers populaires. Ce sera demain à Nouville. Depuis les événements de mai, l'institution mène des rencontres avec des référents des quartiers pour évoquer leurs difficultés au quotidien. Un livre blanc a ensuite été écrit et présenté en novembre dernier. Et ce premier forum qui lui est consacré traitera de la question du droit. Écoutez le sénateur coutumier Victor Gogny.
À travers ces espaces, le Sénat coutumier s'est auto-saisi de ses inquiétudes, de ses problématiques. Et c'est dans cette optique qu'on a fait des auditions, de manière à peut-être pouvoir avoir des idées de solutions. Donc on aura des juristes, des avocats, et on aura également des assesseurs coutumiers. Tout le monde est invité à cet événement, je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas ces préoccupations, ces questionnements, donc ils seront là pour aussi entendre ce qui est là autour d'eux, et c'est important.
Le Sénat coutumier qui donne donc rendez-vous demain à Nouville à partir de 9h. Le prochain forum qui sera organisé traitera quant à lui de l'économie sociale et solidaire et le suivant de la culture. Et puis une animation hier soir à la bibliothèque Bernheim. Il s'agissait de la nuit de la lecture, une manifestation nationale qui invite les lecteurs à venir déclamer ou lire à haute voix des textes de leur choix. Un thème avait été sélectionné pour cette année, il s'agissait des patrimoines, un événement gratuit pour un public de tous les âges à partir de 8 ans.
« Oh là là, le tarot est bien trop gros !» dit le tonton de Théo. « Il est temps de le déterrer !» Et le tonton de Théo tire la tige du tarot. Il tire, il tire, il tire. Il peut toujours tirer, le tarot est bien enterré.
Je suis venue avec mes deux enfants de 10 ans parce que j'avais vu l'info et c'est un événement original et la lecture à voix haute, ça peut être bénéfique pour tous. Voilà. J'ai appris plein de choses sur l'histoire des rues de Nouméa, j'ai appris des choses sur des autrices comme Dewey Gorodé. J'ai découvert tout plein de choses sur le patrimoine, ça peut recouper plein de choses et du coup c'était super intéressant.
J'ai bien aimé raconter une histoire, moi aussi. Plein d'anecdotes. C'était très cool. Le gros tarot.
Vraiment une très belle soirée. J'avais choisi un texte de Dewey Gorodé. Ça m'a beaucoup touchée de le relire. C'était bien de replonger dans l'histoire. Et puis les rues de Nouméa, bien sûr.
Et la bibliothèque Bernheim qui a refermé ses portes à 20h hier soir après 2 heures de lecture. Il est 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu, ce coup-ci c'est la dernière pause. Ensuite on retrouvera l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot avec du handball, notamment un match crucial pour l'équipe de France puisqu'il y a une place en finale du championnat du monde qui se joue.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Mouna raconte une histoire au tout petit vers 19h10.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
Avec la Calédonienne des Eaux, payez vos factures en toute simplicité. Des bornes de paiement sont là pour vous, proches de chez vous. Profitez d'un service pratique et rapide. Calédonienne des Eaux, l'eau qui nous unit.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Voici le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Du handball à la une pour commencer, l'équipe de France qui jouera dans quelques minutes maintenant pour une place en finale du championnat du monde, Lionel Sabot.
Oui, et énorme ambiance pour cette première demi-finale de ce championnat du monde. Il faut dire que la rencontre qui voit une confrontation entre la France et la Croatie se joue à Zagreb, c'est la capitale de la Croatie. Inutile de vous dire que les Bleus vont devoir résister à la pression d'une des meilleures équipes du monde et d'un public qui est connu pour sa ferveur. Entre une rencontre entre les deux plus beaux palmarès du handball mondial. France-Croatie, c'est au total 5 titres olympiques et 7 titres de champion du monde. Toutefois, sur le papier, ce sont les Français qui sont très légèrement, mais alors vraiment très légèrement favoris pour cette rencontre qui débutera d'ici quelques minutes. Les Bleus sont invaincus depuis le début de ce championnat du monde, alors que les Croates ont enregistré une petite défaite. C'était en tout début de compétition face à l'Égypte. Le vainqueur de ce match entre la France et la Croatie jouera la finale de la compétition. Ce sera lundi matin pour nous, ce sera face au vainqueur de l'autre demi-finale qui verra demain une confrontation entre le Danemark et le Portugal.
On passe au football avec la fin ce matin de la première phase de l'Europa League.
Ouais, et comme hier en Ligue des Champions, 18 matchs vont se jouer simultanément ce matin. Deux clubs français seront sur les pelouses européennes. Lyon, qui est déjà assuré de poursuivre dans la compétition, devra s'imposer devant les Bulgares de Ludogorets pour s'assurer une qualification directe pour les huitièmes de finale. Nice, qui n'a plus rien à attendre du tout dans cette compétition, recevra les Norvégiens de Glimt et qui, eux, joueront pour une qualification directe pour les huitièmes.
Et on termine avec du golf en Calédonie Lyonnais avec la Ryder Cup d'Eva 2025.
Et on programme aujourd'hui sur le parcours de Bora et les entraînements, puis demain et dimanche la compétition. Les golfeurs du Sud affronteront les golfeurs broussards sur le parcours de Deva. Chaque équipe sera composée de 10 hommes et de 10 femmes sélectionnés par les capitaines des clubs de Tina et de Dimbéa, que sont respectivement Laurent Bonnefond et Jean-Benoît Peudetour pour les sudistes, et les capitaines des clubs de Deva et de la Wengi, que sont Laurent Heut et Jean-Louis Lechêne pour les broussards.
Merci beaucoup Lionel Sabot. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et quand beau temps rime avec vent, mon cher Thierry, pour aujourd'hui.
Oui, vigilance jaune avec un vent violent. Ce sera cet après-midi sur le sud-ouest de Païta à Bouraï, le nord-est de Puebo à Poum et sur le sud-est de Thiou à Canala. Alors c'est un vent de secteur sud-est, il se renforcera autour des 25 nœuds et des rafales pouvant atteindre 35 à 40 nœuds. Maintien de la vigilance cette nuit et ce sera sur le nord-est. Ce matin, le soleil sera bien présent sur la façade ouest. Des nuages et quelques averses faibles circuleront encore et ce sera au Loyauté et sur l'est. L'Alizé orienté est-sud-est pour ce matin. Il s'établit autour des 15-20 nœuds, localement près de la pointe nord, entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds. Il sera moins fort sur le nord-ouest en début de matinée. Il sera compris entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi, le soleil se montrera très présent sur la Grande Terre, mais de rares averses resteront possibles aux Loyautés, sur l'extrême sud, ainsi que sur la chaîne et le nord-ouest. L'Alizé orienté est-sud-est pour cet après-midi, alors comme prévu, entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales à 30-35 nœuds. Il dépassera localement les 25 nœuds et des rafales supérieures à 35 nœuds sur le sud-ouest et le nord-est, ainsi que dans la région de Thiou. Les températures maximales sont stables, souvent comprises entre 30 et 33 degrés, jusqu'à 34 degrés par endroit sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal.